Comment sortir du consumérisme? Le sociologue Razmig Kecheyan pose la question dans un ouvrage qui paraît aux éditions de La Découverte. Un livre qui interpelle, qui fait réfléchir sur la question de nos besoins réels. Selon le scientifique, les marchandises qui envahissent notre quotidien ne sont pas soutenables humainement et écologiquement. Des besoins artificiels qui participent à l'épuisement des ressources, qui sont aliénants si l'on en juge par l'obsession qu'ils suscitent chez le consommateur. Comment repenser donc cette question du consumérisme et de nos pratiques? C'est l'objet de notre discussion dans un instant. Vos questions à notre invité 01 45 24 7000, vos témoignages également sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Passage au vert dans un instant.
Oui, avec le glyphosate, la sortie pourrait être un petit peu plus longue et compliquée que prévu.
Dans la deuxième demi-heure, dernier portrait d'un mal-aimé de l'écologie, Antoine Lee a rencontré un marin-pêcheur en Normandie. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Franck, un auditeur qui va nous parler de Violette, sa mule et de la traction animale. Et puis enfin, notre invité découverte et Lila Djedi, une passionnée de cuisine qui publie un manifeste pour une cuisine engagée. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Céline Hila, avec à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos et Philippe Duclos.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
Xie, Pa, Qi, Liu, Wu,
4, 3, 2, 1.
À minuit, top chrono, le compteur est lancé. Deux minutes plus tard, les ventes d'Alibaba atteignent déjà 1 milliard de dollars. En Chine, le 11 novembre, c'est jour de frénésie consumériste. On ne célèbre pas l'armistice, mais la fête des célibataires. Il y a 8 ans, le géant du commerce en ligne chinois l'a transformé en fête commerciale. C'est devenu la plus grande journée de shopping au monde.
Bonjour Razmig Kecheyan.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Ça, c'était en 2017 et beaucoup d'exemples. On pourrait citer le Black Friday qui va se dérouler très bientôt. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux et vous publiez donc à La Découverte les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme. Et c'est un livre qui interpelle, qui fait beaucoup réfléchir sur notre rapport justement aux marchandises, sur nos actes d'achat qui viennent souvent se fracasser sur les aspects humains et écologiques. Et votre livre commence avec un prologue sur le problème de la pollution lumineuse. On en a parlé d'ailleurs. Ici dans la Terre au carré, sur le droit à l'obscurité. En quoi cette question de l'éclairage rejoint les enjeux concernant la consommation exactement ?
Ben, l'éclairage artificiel, c'est l'exemple par excellence d'un progrès, mais qui se transforme en pollution au bout d'un certain temps, au bout d'un certain niveau d'éclairage artificiel, et qui permet par conséquent de se poser la question de quoi avons-nous besoin ? De quel niveau d'éclairage artificiel nous avons besoin ? Et c'est l'objet de mon prologue qui me permet ensuite de dérouler toute la théorie des besoins que j'emprunte, notamment à des auteurs comme André Kort ou Agnès Heller. Mais donc c'est véritablement une manière de poser la question des besoins que cette question de l'éclairage artificiel et de la pollution lumineuse que génère l'éclairage artificiel excessif.
Voilà, puisque cet éclairage, il est aujourd'hui évidemment une source de progrès, mais également d'effets délétères, on le voit bien. Et vous allez très loin d'ailleurs dans les effets de cette privation, au fond, d'observation du ciel. Vous parlez d'un cosmo-capitalisme, c'est ça ?
Cosmo-capitalisme, oui, l'éclairage artificiel excessif, il change notre rapport à l'univers qui nous entoure, au cosmos qui nous entoure.
Et c'est la faute du capitalisme.
C'est la faute du productivisme et du consumérisme qui est inhérent, en effet, au capitalisme. C'est pas le seul responsable, bien entendu, mais c'est le principal d'entre eux, en effet.
La transition écologique donc, qui s'annonce va nous demander de faire des choix de production et de consommation drastiques pour essayer de lutter justement contre la dépense énergétique. Et c'est donc la question de nos besoins réels qui est au cœur de cette question. Savoir de quoi nous avons réellement besoin, c'est la question centrale autour de la transition, justement. C'est vertigineux, d'ailleurs, comme question en soi.
C'est une question qui est fondamentalement politique, et c'est ça l'idée fondamentale de gens comme André Gortz ou Agnès Heller. À part les besoins vitaux, comme se nourrir ou se protéger du froid, tout le reste est, d'une certaine manière, sujet à discussion politique, et donc peut faire l'objet d'une délibération collective. Tous les besoins, à part les besoins vitaux, sont des besoins de culture, donc qui évoluent sur le plan historique. Et dès lors que c'est évolutif sur le plan historique, ça signifie que ça peut faire l'objet d'une délibération dans le cadre d'institutions politiques. C'est véritablement ça, la transition écologique. Ça consiste à débattre sur qu'est-ce qu'un besoin légitime qu'on va continuer à satisfaire et qu'est-ce qu'un besoin qui ne l'est plus et qu'on va par conséquent renoncer à satisfaire parce que ces besoins ne sont plus soutenables sur le plan écologique.
Donc ça se fera dans le cadre d'une démocratie, évidemment, ou d'une dictature verte ?
Alors certainement pas d'une dictature verte. Au contraire, il faut approfondir le processus démocratique, à la fois représentatif, mais aussi avec des institutions de démocratie directe, des formes de conseils où cette délibération sur les besoins pourra véritablement avoir lieu. Donc c'est, je suis très hostile à toutes les théories de la dictature verte, évidemment, parce que la transition écologique implique d'entraîner les gens avec nous, de réorganiser la vie quotidienne des gens, et ça, ça se fera de toute évidence pas dans le cadre d'une dictature verte. Il faut approfondir les processus démocratiques et compléter la démocratie représentative par une démocratie directe.
Le marxisme est de retour, véritablement, aujourd'hui, au cœur de toutes ces réflexions.
Je crois.
Ça lui redonne un petit coup de jeune.
En effet, je crois que beaucoup de jeunes, en particulier, s'intéressent au marxisme. Le capitalisme génère des inégalités, mais il génère également une crise climatique. Les deux, donc, et par conséquent, il faut renouveler la critique du capitalisme en tant que le capitalisme est le principal responsable de la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. Je vois autour de moi de plus en plus de jeunes qui sont, en effet, intéressés par un renouvellement du marxisme et par là même par une critique du capitalisme radical.
Alors revenons à certains exemples intéressants que vous citez d'ailleurs et qui nous posent question d'ailleurs dans notre façon de vivre ou de consommer, puisque tous les besoins authentiques ne sont pas d'ordre biologique, hein, comme vous c'est le disiez, le fait de se nourrir par exemple ou de ne pas avoir froid, aimer être aimé, se cultiver, faire preuve d'autonomie. Et vous abordez là-dedans la question des voyages, qui est très intéressante parce que évidemment voyager ça permet quand on en a les moyens évidemment de se cultiver, de s'ouvrir à l'altérité, c'est ce que vous rappelez. Et donc avec la démocratisation aujourd'hui du voyage et l'effet pervers du low cost, par exemple. Tout le monde aujourd'hui a le droit de voyager, avec des conséquences évidemment écologiques absolument catastrophiques. Alors, est-ce qu'il faut arrêter pour autant de découvrir le monde ou est-ce qu'il faut réserver les voyages à des élites? Comment on prend le sujet?
Il faut créer un autre imaginaire du voyage en substituant par exemple les voyages en avion low cost, vol interne, par des voyages en train, par exemple. C'est un nouvel imaginaire du voyage qu'il faut absolument concret. Le voyage, c'est un besoin qui n'est pas vital, on peut vivre sans, bien entendu, mais qui est essentiel en ceci qu'il participe des identités modernes, nos identités. Et par conséquent, il n'est pas du tout question de renoncer au voyage complètement, mais il faut inventer une autre manière de voyager en faisant en sorte que les voyages soient désormais soutenables sur le plan écologique. Il y a des expérimentations diverses et variées, des projets de loi qui sont également en préparation sur la substitution, par exemple, des vols internes qui sont émetteurs de gaz à effet de serre selon des volumes considérables par exemple, le train.
Ouais. Alors évidemment, dans ces actes de consommation, dans notre façon d'acheter, il y a par exemple tous ces objets qu'on nous présente comme nouveaux et qui ne sont en réalité que des suites constantes d'objets ayant déjà existé, les smartphones en particulier. Toute cette façon de consommer, elle est quasi pathologique. D'ailleurs, vous vous êtes intéressé à la question avec des psychiatres qui font rentrer vraiment ces achats compulsifs dans le manuel quasiment des pathologies. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? On est tous aliénés par ces façons d'acheter aujourd'hui, non?
Ce que les psychiatres recommandent contre la consommation compulsive, c'est de faire ces achats collectivement, à plusieurs, pour arrêter en quelque sorte la consommation compulsive. Donc sous l'œil d'autrui, d'une certaine manière, collectivement, la consommation compulsive, elle devient moins problématique.
Ouais.
Alors, évidemment, on va pas transposer ça à tout un chacun, à tous les consommateurs, mais ça met sur la piste d'une réflexion sur la socialisation ou la collectivisation d'au moins un certain nombre d'achats, quoi. Il faut sortir l'individu de son tête-à-tête avec la marchandise. C'est ça, fondamentalement, le message des psychiatres qui s'intéressent à la consommation compulsive. Et en le laissant l'individu dans son tête-à-tête avec la marchandise, on ne sortira pas de la situation consumériste dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc le moment est venu d'être créatif de ce point de vue-là, s'inspirer des psychiatres, mais aussi évidemment de toutes sortes de théoriciens critiques politiques pour essayer d'imaginer des formes de consommation qui échappent au consumérisme.
Alors pour citer justement André Gorz, tout l'enjeu c'est de parvenir à instaurer une norme du suffisant, pour reprendre ces termes. Ouais. Le problème c'est comment y parvenir réellement. Alors vous parlez de cette sorte de démocratie pour décider, mais c'est extrêmement compliqué. L'autorégulation par exemple sur ce sujet, elle est quasiment impossible, non?
Oui, mais la norme du suffisant, elle a existé avant le capitalisme en fait, c'est ce que montre Gorz. C'est la norme du toujours plus qui a été créée par le capitalisme à partir, disons, du XVIIIe siècle. Avant ça, les sociétés vivaient sur la base de la norme du suffisant. Ce qui a été historiquement peut revenir. Et donc, c'est pas du tout inconcevable que des formes de société basées sur cette norme du suffisant puissent à nouveau être créées. Évidemment, il faut faire preuve d'imagination politique, de design politique, créer des institutions qui vont nous permettre justement de donner toute sa force à cette norme du suffisant, comme disait Gorz.
Razmik Kocheyan, donc le capitalisme, c'est tout marchandisé, même les marchandises. Vous intéressez cette fois aux extensions de garantie. Ouais. On dirait presque du Welbeck, moi d'ailleurs, j'ai trouvé, quand vous faites des focus comme ça sur des passages particuliers, ça devient quasiment obsessionnel et on sait tout, par exemple, de l'extension de garantie grâce à vous.
Mais c'est un sujet tout à fait passionnant.
Ah ben, en
fait.
Oui, c'est ça,
une manière pour le capitalisme de, marchandiser une marchandise une deuxième fois en vendant des extensions de garantie. Ouais. Et donc en faisant des profits non pas seulement sur le prix de vente de la marchandise, mais sur les extensions privées de garantie. Ouais. Et oui, c'est un sujet qui m'a passionné parce qu'il est symptomatique de la manière dont fonctionne le capitalisme.
Ouais, c'est-à-dire qu'on est capable de nous revendre des choses
une
parce
deuxième
que c'est nous
fois,
qui payons finalement.
D'une certaine manière, par des extensions privées de garantie, c'est ça. Ouais.
Vous dites qu'il faut étendre l'anticapitalisme aux objets, hein. C'est ça aussi le cœur finalement.
Sortir de la civilisation du jetable, en fait, ouais. C'est ça. L'anticapitalisme étendu aux objets, c'est sortir en effet des biens jetables.
Alors il y a des idées intéressantes, hein. Vous dites la robustesse pourrait devenir un objet politique dans les prochaines années, ouais. Et donc il convient par exemple d'inciter les fabricants à proposer des biens durables, réparables. Donc il y a tout ce problème de l'obsolescence programmée, on en a parlé également dans cette émission. Ouais. La robustesse, vrai sujet de discussion politique.
Oui, ça passera par des nouvelles régulations, évidemment ça ne sera pas un claquement de doigts et ça ne se fera pas avec les industriels seulement. Il faut véritablement que le politique joue son rôle par des régulations nouvelles qui conduisent à la création d'objets plus robustes, plus réparables.
Avec des pièces détachées aussi.
Exactement, qui sont disponibles. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des pièces détachées, à part dans quelques secteurs, et par conséquent, il faut rendre à nouveau les pièces détachées disponibles. Pour inciter le consommateur à ne pas racheter des objets nouveaux une fois que son objet est tombé en panne, mais l'inciter justement à aller le réparer. Ouais. En étendant également la durée de la garantie, comme le proposent certaines associations, comme les Amis de la Terre.
Ouais. Est-ce que Marx proposait des choses aussi pratiques que vous? Parce qu'au-delà de la théorie, non. Là on a notre petit guide avec des propositions, ce qui était pratique d'ailleurs, parce qu'on passe de la théorie justement à des choses très concrètes.
Du livre, en effet.
Mais Marx, c'était pas du tout ça.
Non, bien sûr, le capitalisme que Marx a sous les yeux n'est pas le capitalisme consumériste qui est le nôtre, celui des Trente Glorieuses et du début du XXIe siècle. Donc chez Marx, on trouve plein d'idées, mais on trouve pas tout. Quand même.
Ouais. Le Black Friday, c'est l'incarnation du diable pour vous, au fond ou pas?
Non, pas du tout, mais c'est quelque chose qu'il faut critiquer, qu'il faut soumettre à critique politique et économique. C'est quelque chose qui n'est évidemment pas souhaitable parce que c'est pas durable et parce que c'est consumériste, bien entendu.
Et ce sera dans 15 jours pour ceux qui s'y intéressent. En attendant, en discutant ensemble de cet ouvrage, Les besoins artificiels, comment sortir du consumérisme, vous en êtes l'auteur Razmig Kecheyan, c'est chez La Découverte et les messages nombreux des auditeurs pour vous sur franceinter.fr. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille Cronier, comme tous les jours à la même heure. Et Camille, on passe au vert avec la question du glyphosate à nouveau dans l'actualité.
Oui, puisqu'un rapport parlementaire de suivi du plan de sortie du glyphosate a été présenté cette semaine. Et comment dire, il est plutôt sceptique sur la sortie effective au 1er janvier 2021 pour l'essentiel des usages et au 1er janvier 2023 pour tous les usages. Les exploitations ne sont pas prêtes, dit le rapport. Écoutez l'un de ses auteurs, le député de la majorité, Jean-Luc Fugy.
Chercheurs, spécialistes et agriculteurs nous disent qu'en l'état actuel des connaissances, cette sortie abrupte serait difficile pour nombre d'entre elles.
Sortie abrupte décidée il y a presque 2 ans, je le rappelle. Alors oui, pourquoi le délai est-il trop court selon eux? Le rapport avance des éléments comme des impasses techniques. Par exemple, obligé de faire du désherbage à la main s'il n'y a pas de glyphosate, investissement intenable en main-d'œuvre, écrit-il, ou encore des surcoûts pour le matériel alternatif et les autres produits chimiques plus chers. Et puis il y a aussi les tracteurs qui devront labourer davantage.
Qui dit labour, c'est effet de serre supplémentaire avec les tracteurs, consommation de fuel. Enfin voilà, donc c'est contre-productif.
Alors lui, c'est Jean-Baptiste Moreau, l'autre auteur du rapport, également de La République En Marche. On le voit et on l'entend partout depuis quelques jours pour parler glyphosate et répéter qu'en fait le problème de ce calendrier, eh bien c'est la chute de rendement, hein, au moins c'est clair. Et alors j'ai remarqué autre chose, c'est qu'il répète que son rapport n'a pas pour objet la dangerosité du produit, c'est vrai, mais il n'arrête pas d'en parler. Voilà par exemple ce qu'il disait mardi soir à l'Assemblée nationale.
Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a une chute de la biodiversité. Est-ce que le labour est pas plus responsable de la disparition des arthropodes et des vers de terre que le glyphosate, qui est un insecticide, qui est un herbicide, pardon, et pas un insecticide. Ce qui tue les insectes, en principe, c'est les insecticides et c'est pas les herbicides. Donc voilà, il faut éviter de tout mélanger.
Et il poursuit.
Je connais aucun agriculteur qui achète les pesticides par plaisir. Aujourd'hui, ils les utilisent par nécessité.
Alors je précise, je vous le dis même, que le député de la Creuse est lui-même agriculteur, d'ailleurs il s'en cache pas du tout, et il dit même utiliser du glyphosate.
Et de plus, le glyphosate, s'il est utilisé de façon massive, c'est parce qu'il est pas cher et très efficace. Donc après, sur la dangerosité possible ou probable, on n'est pas revenu là-dessus.
On n'est pas revenu là-dessus, mais voilà ce qu'ajoute quand même Jean-Baptiste Moreau.
Sur le nombre de cancers dus au glyphosate, moi si vous avez des statistiques, ça m'intéresse, parce que dans la réalité, il n'y en a pas.
Alors je rappelle que le produit a été classé cancérogène probable par l'OMS, pouvant donc favoriser l'apparition d'un cancer, ça veut dire ça. Et sa dangerosité, eh bien, même Emmanuel Macron l'a relevé, c'était l'an dernier au Salon de l'Agriculture.
Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain, après-demain. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont dans les yeux.
Et c'est d'ailleurs bien Emmanuel Macron, Camille, qui avait annoncé la sortie du glyphosate.
Hein. Oui, en novembre 2017, dans un tweet, j'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans, hashtag make our planet great again, sauf que les alternatives donc ne seraient pas encore prêtes. Le rapport demande une liste des cultures qui pourront bénéficier de dérogations et relève au passage qu'il n'y a pas de données sur l'usage du glyphosate, uniquement sur les ventes. Bref, on est loin de ce qu'assurait François de Rugy en janvier dernier. Il était encore ministre de la Transition écologique.
Je le redis en tant que ministre, en 2021, nous en aurons fini avec le glyphosate.
Vous dites dit. Voilà, c'était dans Envoyé spécial. Et loin aussi de ce qu'affirmait le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Là, c'était à la fin de l'été.
La France va être le premier pays au monde à sortir du glyphosate. L'Union européenne a dit 5 ans. Emmanuel Macron dit 3 ans. Et on dit à Emmanuel Macron, non, ce n'est pas assez. Oui, mais sauf qu'on va être le leader au monde.
Alors Elisabeth Borne, la nouvelle ministre de l'écologie, assurait dimanche ici sur France Inter que le gouvernement restait résolu à sortir du glyphosate dans le calendrier prévu. Autant vous dire qu'on va le prendre avec des pincettes, car le terrain donc est à la bourre. Pardon pour le mauvais jeu de mots.
Oh, c'était pas mal. Camille passe au vert et sans glyphosate, c'est à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
Razmig Kocheyan, est-ce que le glyphosate finalement n'est pas un symbole de ce besoin artificiel, c'est-à-dire un produit devenu besoin pour certains en tout cas?
Dans le cadre d'un certain modèle productif agricole notamment, c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut repenser la question du productivisme et du consumérisme, plus généralement, avec cette entrée du glyphosate, bien entendu, qui est une entrée possible parmi d'autres. Mais c'est vraiment véritablement la question de l'efficacité du productivisme qui est mise en question par les luttes pour l'interdiction de ce glyphosate, en effet.
Et la sortie du consumérisme, on en parle ensemble dans un instant avec les auditeurs de La Terre au Carré.
La côte en haut de la ville est avare en ombre l'été. C'est là rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole, l'air de ne pas y toucher. Mais le moindre bruissement l'affole, le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire, c'est ce que se sent, lui dit que tout son latin se divise aux volets bleus et entrouverts, aux vélos verts. À ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi. La ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort d'une nuit blanche et agitée. Le moindre bruissement l'endort, le fait se remettre à rêver, revenir sur ses pas, et puis recommencer à regagner l'en bas. C'est qu'il y a tout l'autour, consumé par les sens et l'été, son latin. Résumé, à répéter tout bas, voudrais-tu danser? Voudrais-tu danser?
voudrais-tu redanser avec moi ou pas, hein? Cette couleur de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi.
L'art de la défaite, c'était Batlick.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Comment sortir du consumérisme? Faut-il même sortir du consumérisme? Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, Razmig Kecheyan écrit un ouvrage sur le sujet autour des besoins artificiels aux éditions de la Découverte. Et il y a beaucoup de questions pour vous au standard, sur les mails, sur les réseaux sociaux et au 01 45 24 7000 où Jean-Luc nous attend. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
D'être avec vous.
Merci. On écoute votre question. On vous écoute, Jean-Luc.
Oui, la question est, est-ce que nous sommes véritablement, nous, accros au consumérisme et devons-nous corriger nos façons de vivre ou, avec un regard plus pragmatique, ne faut-il pas constater que le système nous oblige à détruire l'environnement?
Bien sûr.
Vous avez parlé, je crois, du glyphosate. Il y a un exemple sur le site qui propose ce que moi je défends, c'est-à-dire la dissuasion incitative sur le glyphosate, qui démontre que nous sommes obligés, par souci de compétitivité, d'utiliser des produits polluants. Et pire que ça, nous pourrions, par exemple, lutter très efficacement contre l'obsolescence programmée, en mettant une garantie de 25 ou 30 ans sur l'électroménager. Or, dans notre système, c'est totalement impensable, puisque nous ferions des millions de chômeurs.
Alors, Razmig Kecheyan,
si vous vous souvenez, en 2015, Manuel Valls a renouvelé pour l'usine de Gardanne l'autorisation de produire de l'alumine, et donc de déverser ses bouches toxiques en plein cœur de la réserve marine de Cassis. Valls n'était pas fou. Les lobbies n'ont pas fait pression. Tout simplement, il y avait 700 emplois dans l'usine, et si on avait fermé l'usine, on aurait fait, avec les emplois induits, 3000 chômeurs.
Alors, Jean-Luc, on va vous répondre, puisqu'il y a beaucoup de points dans votre intervention, la question du chômage, celle de la durée aussi des produits. Vous dites par exemple sur des objets comme les frigos, maintenant ça va, ils ont fait leur preuve, il n'y aura pas de nouvelles technologies plus améliorantes, et on pourrait justement avoir des durées de vie, les demander aux producteurs, beaucoup plus longues.
Oui, si vous augmentez la durée de la garantie, ça suppose que les objets vont être davantage réparés, et ça suppose des réparateurs en nombre, donc ça crée de l'emploi. Je ne sais plus quel est exactement le chiffre, mais 50% des emplois de réparateurs ont disparu au cours de la dernière décennie, quelque chose de cet ordre. C'est parce que les marchandises ne sont pas, justement, réparées. Or, si vous augmentez la durée de la garantie, ça veut dire qu'elles le seront davantage, beaucoup plus, et ça suppose par conséquent qu'il y a un secteur qui va devenir florissant, c'est le secteur de la réparation en général. C'est un secteur qui, d'ailleurs, peut être assez peu capitaliste, d'une certaine manière. Il faudrait voir les modalités de son organisation. Donc, cette question de l'emploi, c'est une question à prendre très sérieusement. La question des emplois verts est centrale dans la transition écologique, mais je vois pas, absolument pas d'impossibilité logique dans le fait de créer des nouveaux emplois grâce à la transition écologique justement.
Et la question du chômage alors, le fait justement d'arrêter de produire, si tout le monde fait comme toi, nous dit Amélie sur Facebook, les magasins vont fermer, les usines s'arrêter, avez-vous pensé à tous ces emplois?
Bien sûr, il faut garantir un revenu aux personnes qui auront perdu leur emploi, par exemple dans les secteurs les plus polluants, et en même temps il faut garantir les conditions de leur formation pour qu'ils aillent vers des emplois qui soient des emplois verts, des emplois non polluants, non consuméristes. Ça suppose une transition d'ampleur, je dis pas le contraire, mais cette transition d'ampleur c'est quelque chose qui est tout à fait possible, les sociétés par le passé ont connu des transitions importantes, et donc il faut mettre toutes nos forces, et nos forces financières en particulier, dans cet effort collectif de restructuration de l'économie pour aller vers une société durable. Je ne vois pas l'alternative de toute façon, puisque la crise environnementale est là, elle est déjà là, et par conséquent des mesures drastiques s'imposent.
Alors Michel nous dit sur Facebook, le capitalisme ne fait que jouir d'une demande, personne n'est contraint d'acheter un produit s'il n'en a pas vraiment besoin. Comment analyser ses besoins? En fait finalement, comment est-ce qu'on fait la part entre besoin et plaisir?
Les dépenses publicitaires tout au long du 19e et du 20e siècle n'ont pas cessé d'augmenter de manière vertigineuse, les dépenses des entreprises capitalistes publicitaires. Et donc ça suppose que la civilisation dans laquelle on vit est une civilisation de la publicité qui est omniprésente. Noël arrive, vous l'avez dit, on va subir la publicité, une publicité publicité de plus en plus importante dans nos vies quotidiennes. Là, il y a une limitation de la publicité à mettre en place. Je dis pas qu'il faut l'interdire complètement, nécessairement, mais en tout cas, un encadrement drastique de la publicité, à mon avis, est de mise. D'ailleurs, je signale au passage que François Ruffin va déposer un projet de loi dans ce sens tout à la fin du mois de novembre. Je pense qu'il faut encourager ces initiatives-là qui visent à encadrer strictement la publicité. La publicité...
Vous êtes militant de la France Insoumise ?
Je suis assez proche de certaines de leurs idées, mais je suis pas un militant de la France Insoumise. Par contre, je pense que cette question de la publicité est une question qui dépasse de beaucoup la politique au sens strict. Et une partie significative des besoins artificiels que j'évoque sont générés artificiellement par la publicité, justement. Mais aussi par l'obsolescence programmée ou par la facilitation du crédit, qui est un phénomène qu'on observe aussi.
Mais il y a un côté plaisir aussi, pardon, mais il y a un côté plaisir si on veut aller s'acheter un nouveau pull
ou un livre
même.
Bien sûr, le plaisir peut s'investir aussi ailleurs que dans le consumérisme. Les sociétés consuméristes sont assez récentes à l'échelle de l'histoire et on peut tout à fait imaginer que le désir s'investisse ailleurs que dans le plaisir consumériste. Encore une fois, c'est une nécessité parce que c'est pas soutenable sur le plan environnemental. Donc il faut faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du plaisir soutenable et ce qui est désormais non soutenable et par conséquent ce qui va devoir être régulé drastiquement.
Razmik Kocheyan, vous avez fait partie de la gauche radicale en Suisse, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en Suisse, en France, un peu partout.
C'est plus le cas aujourd'hui ?
Oui, c'est ça, c'est plus le cas aujourd'hui.
Alors, Jackie est en ligne avec nous au Standard de France Inter. Bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jackie.
Bonjour votre invité. Bonjour,
bonjour.
Frère. Alors, je vais enfoncer clos sur ce qui vient d'être dit parce que c'est l'objet de ma réflexion, mais je vais donner deux exemples. Donc, effectivement, ma question était comment diffuser des idées nouvelles pour repenser la société, c'est le sujet. Et l'excellente émission que vous avez diffusée hier nous montrait l'impossibilité, cette impossibilité avec la publicité. Alors que le marché qui communique nous pousse vers des sentiments qui sont pas tellement avouables normalement. L'envie, la jalousie, le mensonge, par exemple, une publicité de voiture française où on voit une femme enceinte qui crie après son mari « donne-moi les clés, j'ai mal au ventre » et qui s'en va avec la voiture en éclatant de rire avec sa copine et laissant le mari complètement pantois avec son copain. Et puis nos publicités, on voit une famille de quatre aller en voiture, en vacances, dans un club, et s'ennuyer gravement et reprendre la voiture et là et être heureux dans la voiture. Alors tant qu'on va diffuser des idées comme ça et qu'il n'y a pas un contrôle sur la publicité, effectivement, le consumérisme ne pourra que continuer.
Alors Razmik Kocheyan, complément de réponse à
non,
ce que vous disiez tout à l'heure.
Qu'il y ait une information sur les produits à destination des consommateurs, une information, ça c'est concevable. Par contre, le type de publicité que vous évoquez là, qui remonte aux années 50, à l'après-guerre, c'est quelque chose qui peut parfaitement être interdit ou en tout cas massivement régulé. Vous avez tout à fait raison, c'est ce genre d'idée dont il faut entraver la circulation dans la société.
Fabrice nous dit, si on arrêtait d'enseigner le marketing, l'art de faire vendre, de créer c'est le ça. Besoin, là il n'y en a pas.
Bah, c'est ça, exactement. Vous voyez que la liste des mesures s'allonge.
Ah, vous avez des copains. Ça, c'est sûr. Allez, Sylvie est en ligne également avec nous, puis d'autres questions au Standard. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. Donc ma question, c'est, en fait, j'aimerais savoir, face à la pression industrielle, financière et commerciale, comment on fait, nous, pour changer parce qu'effectivement, il faut changer, mais quels sont les vrais moyens de pression qu'on a pour cette transition écologique, cette transition de société, voilà, face à tout ça.
Alors, les vrais leviers, Razmik Kocheyan, effectivement.
Mais il y a des mesures de court terme, on les a évoquées, l'augmentation de la durée de la garantie, 10-25 ans, la limitation drastique de la publicité, ça c'est une possibilité aussi, évidemment. Ouais. Hein, c'est des mesures immédiates, de court ou de moyen terme. Ouais. Mais il y a aussi des rapports de force politique à obtenir sur le plus long terme. Les marches pour le climat aujourd'hui, bah, c'est typiquement un mouvement qui va permettre d'obtenir un rapport de force pour obtenir des régulations nouvelles sur les questions environnementales, y inclus, je l'espère, les questions de consommation. Et donc, il faut participer à ces mobilisations collectives, de sorte à obtenir un rapport de force avec les classes dominantes qui, elles, ont intérêt à ce que le modèle actuel perdure.
Vous dites l'objet doit s'accompagner de l'affichage du prix d'usage. C'est quoi ça?
Le prix d'usage, c'est le prix que vous coûte un objet quand vous l'utilisez. Une voiture, vous l'achetez, mais ensuite, il vous coûte de l'assurance, de l'essence, etc. Donc, le prix d'usage, c'est le coût total qui pourrait être affiché. Et donc, évidemment, ça augmente.
Bien sûr.
Mais ça a aussi un effet de révélation sur le consommateur, qui ne paie pas seulement le prix au moment de l'achat, mais qui a une idée globale du coût global. Donc, va lui coûter la marchandise, que ce soit une voiture ou n'importe quoi d'autre. Ça a des vertus écologiques, de prise de conscience écologique.
Xavier, par mail, nous parle de cette carte bancaire qui calcule les émissions de CO2 de nos achats. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou est-ce que c'est finalement encore du consumérisme d'avoir la carte bancaire?
Attaché à une carte bancaire, je ne suis pas sûr que ça ait des effets très diminuants sur le consumérisme. Il faudrait l'attacher à autre chose. Et puis, c'est une mesure individuelle. Moi, ce dont je parle essentiellement, évidemment que l'échelle individuelle a sa fonction, mais il faut des régulations collectives, il faut de la loi, il faut des rapports de force politique pour pour mettre en place une limitation non seulement du consumérisme, mais de la production. La consommation responsable n'est véritable que lorsque elle pose la question de la production. Que produire pour satisfaire quels besoins? Il faut d'abord s'interroger sur les besoins qu'on veut satisfaire et dans un deuxième temps se lancer dans la production. Le capitalisme fait l'inverse. D'abord il produit et ensuite il vous fait consommer par la publicité.
On va faire de la logique, on va faire de la thérapie collective. Hein.
Quelque chose de ce genre.
C'est quasiment
de la thérapie
politique.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on a encore des questions, Camille,
à donner
une toute dernière.
Remarque, en fait, c'est plutôt un témoignage de Marika qui nous dit il y a un lave-linge en cours d'élaboration qui s'appelle l'increvable, pas d'obsolescence programmée, une durée de vie comme la nôtre. Info à partager, je n'ai aucun intérêt dans la promotion, dit-elle, mais c'est la première fois que j'ai connaissance d'une démarche intelligente. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne connais pas cet exemple, mais ça me paraît en effet un exemple intéressant. Les lave-linges, ils peuvent être aussi collectivisés pour diminuer...
Ça s'appelle une laverie, ça.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça, en effet. Ça s'appelle
avec,
comme ça.
Avec tous les plaisirs d'aller laver son linge.
Tous les plaisirs qui vont avec, mais bon, il faudra peut-être en passer par là, en effet.
Merci beaucoup, en tout cas, beaucoup de choses très très intéressantes pour nourrir notre réflexion sur cette question qui nous interpelle tous, les besoins artificiels. Donc vous publiez cet ouvrage aux éditions de la Découverte, Comment sortir du consumérisme. Razmig Kocheyan, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré. Juste après les infos, dernier portrait de la semaine d'un mal-aimé de l'écologie, avec aujourd'hui un marin-pêcheur normand qui sera bien sûr au micro d'Antoine Lee et sur le bateau. Bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 14h.
La Terre au carré.
Au menu de notre demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Franck, c'est un auditeur qui va nous parler de Violette, pour évoquer l'attraction animale. Et puis enfin, notre invitée découverte est Lila Djedi, une passionnée de cuisine qui publie un manifeste pour une cuisine engagée. Mais pour le moment, nouveau reportage de votre série, Antoine Lee, bonjour.
Bonjour.
Consacré au mal-aimé de l'écologie, aujourd'hui vous nous emmenez en mer avec un marin pêcheur.
Oui, vous savez, les pêcheurs sont souvent accusés de vider les mers de leurs ressources. Cette surpêche a nécessité la mise en place d'une réglementation et de quotas extrêmement stricts. Pour en savoir plus, j'ai embarqué à bord du Cap Nord, c'est le bateau de Romain Davaudet. Après une carrière dans la marine marchande, il est devenu pêcheur à Barneville-Carteret en Normandie. Il m'a donné rendez-vous à 6h du matin pour partir à la pêche au bulot.
Donc là, on est parti sur 30 minutes de trajet avant la première filière de casier. Plutôt axé sur les coquillages et les crustacés ici à Carteret. Et la pêche des crustacés et des coquillages, c'est encore une gestion locale, c'est géré au niveau de la région. Donc pour ce qui est du nombre de casiers, de la taille légale, on a aussi des poissons bien sûr qui vivent le long des côtes, mais la pêche est plus compliquée, elle est plus réglementée. Et c'est pas géré de la même façon, c'est plutôt Bruxelles qui gère la pêche du poisson. Et ce qui fait qu'on a des quotas à respecter, mais on a aussi beaucoup d'espèces qui sont interdites au niveau du poisson. Et on a des incohérences énormes. Par exemple, là, ils ont fermé un poisson ici qui s'appelle la raie brunette, alors qu'on en a énormément. On est avec ce problème de ce poisson qui est abondant chez nous et qui mange les autres parce que c'est un prédateur. Et on n'arrive pas à le réouvrir.
Et pourquoi Bruxelles a interdit la pêche de cette espèce si ça pullule dans le coin?
Parce que ça pullule dans le coin, mais ça pullule pas forcément partout. Et ils ont fait des études sur ce poisson en mer celtique. Hein, ils en ont trouvé peu. Ils ont appliqué au nom du principe de précaution une fermeture globale sur tout le territoire administré par Bruxelles, quoi. C'est vrai qu'au départ, les quotas, c'est pour préserver la ressource. Seulement, le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas fermer une espèce de raie toute seule comme ça, sans tenir compte de l'impact que ça va avoir si elle pullule, juste pour faire plaisir à un lobby qui protège coûte que coûte toutes les raies et tous les requins. On doit penser l'écologie de façon globale. Donc là, on est à l'arrière du bateau et on est en train de relever une filière de casier à bulot. Donc là c'est simple, on a un treuil qui relève les casiers, on a juste à vider les casiers dans la trieuse ici. Donc c'est une calibreuse, donc elle remet les petits halos automatiquement, ils passent au travers des grilles, il y a un tuyau d'eau qui les pousse directement en mer.
Romain, qu'est-ce qu'on peut dire sur la taille des bulots et justement la préservation des ressources?
On se débrouille pour en choisir une à laquelle le bulot ou le homard s'est déjà reproduit une fois.
Et pourquoi on ne le fait pas directement ? Augmenter la taille du bulot, comme ça on est sûr qu'il s'est reproduit plusieurs fois déjà.
Eh bien, parce que le but c'est pas d'avoir le plus d'individus possible, il faut maintenir le niveau normal dans la nature.
Comment ça se passe au niveau des contrôles si jamais il y avait des pêcheurs malhonnêtes qui respecteraient pas les règles ?
Alors c'est très très strict. Donc on est contrôlé très souvent.
Vous, ça vous est déjà arrivé ?
Ouais, moi ça m'est déjà arrivé d'aller devant le procureur de la République pour 1,5 kg de bulot hors taille trouvé sur un stock de 400 kg.
Et vous aviez pris combien d'amendes ?
Alors c'était la première fois, j'ai dû prendre 500 euros je crois.
Ah oui quand même, pour 1 kg qui n'était pas aux normes.
Bien sûr, ouais. C'est vraiment puni à mon avis plus cher que la plupart des délits à terre. Il y a régulièrement des bateaux qui ont des PV de 20 000 euros, hein, ça arrive, hein, pour pas grand-chose. Hein. Avec la récidive, avec donc c'est très contrôlé, c'est très strict, c'est très encadré. Et c'est puni très fort.
Est-ce que vous trouvez que parfois, au nom de l'environnement, de la préservation des espèces, on en fait trop ?
Et on en fait peut-être beaucoup pour nous réglementer, nous, et peut-être pas assez. Pour ce qui s'agit d'agriculture, où on peut polluer à tout va, on peut balancer du glyphosate et tout ça, c'est ça le problème.
Sachez qu'en Normandie, les pêcheurs peuvent prélever jusqu'à 300 kg de bulot par jour et par homme embarqué, mais dans tous les cas, ils ne pourront pas aller au-delà de 900 kg par bateau.
Alors Antoine, on peut retrouver toutes les photos de vos reportages et de ces portraits de mal-aimés de l'écologie. C'est sur la page Facebook de La Terre au Carré. Anna Massardier vous a mis tout ça en ligne. Merci beaucoup Antoine.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
France Inter. La Terre au Carré. Solutions pour la planète.
Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à Toulouse. Alors vous êtes technicien et cocher professionnel. Ça, moi je trouve que ça a de la gueule.
Ouais.
Au Conservatoire d'Espace Naturel d'Occitanie à Toulouse. Je ne savais même pas que ce métier existait encore. Vous êtes nombreux à le pratiquer ou pas ?
Oh, nous sommes encore quelques-uns, bien sûr, en France, à le pratiquer. Alors, pas tous en régie, c'est-à-dire nous ne sommes pas tous salariés avec nos animaux, mais il existe aussi des prestataires de services et des agriculteurs qui travaillent avec l'énergie animale.
Et vous voulez dire que votre mule, Violette, est salariée elle aussi ?
Tout à fait. Violette est salariée du Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, de Toulouse, effectivement, et elle participe à nos travaux de gestion.
Mais elle a un bulletin de salaire tous les mois. Qu'est-ce qu'elle fait de son argent, cette mule ?
Alors, effectivement, non, elle n'a pas de bulletin de salaire, mais effectivement, elle est complètement intégrée à la gestion des sites, hein, dans le cadre de la gestion de la biodiversité, et elle fait partie intégrante de l'équipe de gestion. Voilà.
Alors, l'objet de cet appel, Franck, dans vos solutions pour la planète, ben, c'est aussi, bien sûr, au travers de Violette, votre mule, de nous parler de la traction animale, hein, c'est ça ? Ça revient au goût du jour aujourd'hui ? C'est plutôt tendance ? Et dans quelles circonstances on l'utilise ?
Alors tendance, oui, ça fait bien longtemps que cela existe, hein, la traction animale. Elle était aussi, c'était une activité qui était pratiquée par le monde agricole auparavant, hein, tout ce que ça représentait, hein, sa saisonnalité par exemple, hein, le fait qu'on donnait du temps aux moissons, du temps au foin, voilà. Et cette notion de durée offrait à cette agriculture des techniques qui étaient vertueuses pour les espèces. Alors effectivement, on utilise encore aujourd'hui la traction animale, et bien sur différents plans, quoi. Donc aujourd'hui, ça peut être les espaces naturels, ça peut être aussi l'agriculture en règle générale. Je pense aux maraîchers, aux viticulteurs, voilà. Et puis il y a des fermes aussi qui, dans le cadre de la polyculture élevage, utilisent l'énergie encore animale.
Donc Violette, elle fait quoi tous les jours ? Elle se balade dans les champs et la pauvre, elle tire. Je ne sais même pas comment on appelle ce qu'elle tire en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à finir ma phrase.
Oui, alors bon, à travers les missions des conservatoires, hein, qui je le répète, hein, il y a quatre fondements principaux, qui est la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. Bah, on est une équipe de 6 salariés au niveau du conservatoire de Toulouse, et on est là pour mettre en application des recommandations de gestion. Alors ces recommandations, elles sont rédigées par des chargés de mission naturalistes, hein, qui consistent à conserver et à favoriser des espèces et des habitats naturels. Du coup, concrètement, nous, on accompagne les agriculteurs, hein, cadre des entreprises, des particuliers, sous forme de convention. Et on fait aussi des travaux en régie avec notre animal Violette. Alors voilà, du coup, c'est des travaux qui de façon majoritaire, on va entretenir des enjeux qui sont liés à la diversité des milieux naturels ouverts. Et concrètement, on va intervenir sur des actions, pour les hommes, en tout cas des chronages, de débroussaillage sur des secteurs qui sont bien ciblés, et surtout avec la nécessité d'exporter cette biomasse ou ces produits d'exploitation. Et ça, grâce notamment à Violette. En fait, on évite de laisser décomposer la matière sur place, la biomasse, pour éviter justement une concurrence des plantes ruvérales, donc des plantes qui aiment l'azote, en faveur des espèces à plus fort enjeu. Donc notre démarche consiste à créer des placettes de compostage en zone forestière, hors enjeu, et ça va favoriser également une diversité d'habitats, parce que ces placettes de compostage vont aussi accueillir des micro-mammifères, des amphibiens et des reptiles. Donc justement, Violette est là pour faciliter les actions de gestion sur le terrain.
Et Franck, vous êtes capable d'estimer l'intérêt écologique justement du recours à une mule comme Violette ? Est-ce que vraiment ça fait toute la différence par rapport à un tracteur, par exemple ?
Alors moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a un côté universel dans la mule, c'est-à-dire que la mule ne laisse pas indifférent le grand public. C'est-à-dire qu'à travers elle, on peut avoir des actions de sensibilisation. C'est ça qui est important, quoi. De fait, la mule interpelle. Les gens viennent vers nous et nous pouvons aller vers eux. C'est un double sens de communication. Et là, oui, elle a véritablement et indéniablement un rôle à jouer dans la communication et la sensibilisation auprès du grand public, surtout sur nos actions qui sont liées à la biodiversité.
Elle a bon caractère, Violette ?
Oui, elle a bon caractère. Bon, c'est une mule d'un certain âge.
Ou c'est une tête de mule.
Vous êtes arrêté des jeux de mots en ce moment, Camille.
Professionnel.
Alors oui, mais c'est ça, parce que c'est un hybride, la mule. Hein, il faut le rappeler, c'est un croisement entre un âne et une jument. Voilà, donc elle a son petit caractère. Est-ce qu'elle a un beau CV, d'ailleurs ? Parce qu'elle a bien bossé. Vous dites, elle est quand même déjà un peu âgée. Elle a fait ses preuves, je crois.
Oui, tout à fait. Elle a une grosse expérience dans la viticulture, puisqu'elle a labouré pendant de nombreuses années les vignes dans le Roussillon village. Mm-hmm. Et puis, dans le cadre de sa réinsertion professionnelle ou réorientation, effectivement, nous l'avons embauchée dans le cadre des actions du conservatoire. Alors, effectivement, sa douceur est un atout, puisque nous pouvons la confier aussi à des jeunes meneurs. Je pense, en l'occurrence, au chantier école que nous encadrons, des jeunes en apprentissage, donc des filières qui sont de la gestion de protection de la nature ou des filières de gestion des milieux naturels et forestiers. Mmh. Du coup, ça nous permet de la confier à des jeunes meneurs novices. Voilà.
Merci beaucoup, Franck, en tous les cas. Vous qui êtes cocher professionnel, je le rappelle, avec l'aide donc de Violette, cette mule. Si on veut avoir des renseignements sur ce que vous faites, il y a un site internet, une adresse ou pas ?
Oui, effectivement, le site des conservatoires. Les sites des conservatoires sont très très bien faits et sont de très bons revues justement pour accéder à cette connaissance, oui, effectivement.
Franck, j'ai une toute dernière question. Comment vous la guidez, Violette ? Vous lui parlez ou c'est juste avec des rennes ou vous lui parlez, il y a un cri, quelque chose pour qu'elle comprenne ?
Non, on profite de la compétence de Violette. Et effectivement, on évite de travailler avec des embouchures. Donc, on essaye de la manipuler, de travailler avec elle à la voix. Voilà. Du coup, ça lui laisse beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie sur ses actions de gestion. Et puis, son expérience fait qu'elle s'intègre et elle est parfaitement adaptée, oui. Donc, pas besoin de menage ou de lien direct avec elle. Juste la voix suffit.
Merci, Franck. La voix suffit. En tout cas, d'être passé par chez nous aujourd'hui. Bonne journée à Toulouse. Et si vous aussi, de votre côté, vous avez une initiative dont vous souhaitez nous parler, eh bien, vous nous rejoignez bien sûr sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. Dans un instant, on parle cuisine. On parle également de cuisine engagée, et surtout avec Alila Djedi. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a 10. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions, 1 year on. I still can't focus. I did it again. Yeah, I did it. I did it again. 12 rounds in, fighting solo, but nobody wins when it ends. We'll be placing memories.
frames, inviting people round to stay, and always owning up to things, to things. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. So I've been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain, give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turned superhero. Carry on, and though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. 'Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from.
Ten, c'était Rex Orange County à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Quand vous interrogez un mot mais que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond ça vient d'une tablette. C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Allez dans des écoles, au lieu de faire de la télé comme ça, en chambre, mais en petit studio comme ça. Allez voyager, baladez-vous. Vous allez voir la situation des mots, mais consternante. Ils ne savent plus rien, on n'apprend plus rien à l'école. Moi, quand j'entends un môme qui me dit « ça vient d'une tablette, le chocolat », je vous jure, j'ai envie de chialer.
Voilà, une pensée pour Jean-Pierre Coff. Bonjour Lila Djedi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes une passionnée de cuisine. Je préfère dire ça plutôt que cuisinière, parce que c'est pas très joli, hein, cuisinière.
Ça me va très bien.
Et vous publiez donc cet ouvrage Cantine Vagabonde chez Tana Édition, qui est un manifeste pour une petite cuisine engagée. Vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Coff, là, avec ce qu'il vient de dire?
Oui, mais tellement. C'est un de mes héros, Jean-Pierre Coff.
Ah, c'est vrai? À ce point-là?
Oui. J'ai grandi avec lui. Je crois que j'ai beaucoup appris. Il m'a ému, il m'a amusé, il m'a aussi un peu parfois gêné, parce qu'il avait quand même des propos assez directifs parfois.
Ouais.
Mais j'ai beaucoup appris, oui.
Et sur l'idée justement d'aller enseigner la cuisine aux plus jeunes, là, vous êtes totalement dans cette démarche-là.
Absolument, hein. Et on en est encore là. Il y a beaucoup à faire au sein des écoles, dans les quartiers. On est vraiment sur l'idée d'accompagner au goût, d'accompagner sur les saisons. Qu'est-ce qu'un produit? Qu'est-ce qu'une ferme aussi? Comment cultiver? Le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour les récoltes aussi, le goût, les couleurs. Voilà, il y a beaucoup à faire.
Et les enfants aiment ça?
Les enfants
ça
aiment beaucoup.
Ça marche tout de suite la cuisine avec
eux? Ils sont très curieux, les enfants. Ouais. D'abord, souvent, ils sont gourmands, plus qu'à la maison parfois, parce que c'est vrai que la nourriture, ça peut être un peu complexe aussi avec les parents, mais quand c'est à l'extérieur, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la curiosité et de la gourmandise. Donc oui, ils sont curieux, ils touchent aussi, il y a beaucoup de textures, hein, donc on essaie vraiment de les emmener pas à pas vers la découverte et vers l'envie aussi de découvrir des nouveaux possibles. Et de travailler ensemble, donc on est vraiment concrètement, hein, on prépare des choses, la texture, le goût, les couleurs, on prépare ensemble pour déguster ensuite. Et puis il y a toujours un moment où on va échanger sur l'importance du produit bien fait. Donc comment ça se passe avant que ça arrive dans l'assiette, qui produit la terre, le respect de la terre, le respect de l'humain aussi qui travaille la terre, donc qui y a derrière, et puis comment ça arrive dans nos assiettes. Et la possibilité, effectivement, de diversifier son assiette, parce que je crois que c'est très important aussi, le fruit, le légume. Je trouve que c'est très important et c'est le minimum. Il n'y a rien d'extravagant à vouloir manger des fruits et des légumes de saison. Donc voilà, en fait, c'est extrêmement simple, hein. Je crois qu'on a tout complexifié, Mais c'est extrêmement simple, c'est une histoire de sens.
Dans votre livre, qui est un livre de recettes, hein, si on devait le résumer,
il y a le manifeste et ensuite
les recettes par saison. Par exemple, Mathieu, je sais que vous êtes gourmand, cet hiver, il y a riz au lait de noisettes et pommes rôties aux quatre épices.
Mais c'est pas mal.
Je vais tenter de vous le faire.
Et c'est très simple.
Mais c'est qu'avec des aliments locaux au maximum ou pas? Parce que je vois par exemple guacamole, c'est de l'avocat. On se dit que en France, en tout cas, c'est pas vraiment un aliment local. Comment vous avez réussi à faire des recettes avec des aliments qui, des produits qui vont pas nécessiter un bilan carbone hallucinant?
Alors déjà, j'ai la chance d'être dans une AMAP, de connaître certains producteurs avec lesquels je travaille. Et puis, il y a aussi des coopératives, notamment une coopérative sicilienne que je connais maintenant depuis 10 ans, qui produit les avocats, donc qui viennent de Sicile, qui produit des mangues, des ananas, des bananes, pas mal de produits exotiques et tout plein d'agrumes. Donc c'est vrai qu'il y a
Même la Sicile, on n'est pas dans le local, là, pour le coup. On n'est pas sur des circuits courts.
On n'est pas dans le local, c'est vrai, sur ces produits-là. Mais c'est une façon de dire que si on a envie d'avoir ce type de produit dans son assiette, personnellement, je ne suis pas contre. C'est difficile de manger que local. Par contre, ce qui m'importe derrière, c'est d'avoir une empreinte écologique moindre, donc qui viendrait plutôt de Sicile que du Pérou. Évidemment, les conditions humaines sont fondamentales pour moi aussi. Donc je sais que cette coopérative travaille vraiment avec sens et accompagne d'autres personnes en difficulté, des producteurs et des personnes en réinsertion. Donc ça prend du sens. En fait, je crois que c'est compliqué de se priver de tout et d'être que local. Ce serait
surtout
difficile,
en ce moment,
on n'y arriverait pas.
Citons l'exemple de l'automne ou de l'hiver, les paniers à maps, par exemple, c'est un peu triste. Hein, souvent,
alors, c'est
on
un peu triste,
oh là là, on va encore manger du chou, et
les
topinambours, merci.
Mais pas forcément à la fois. C'est-à-dire que sur un produit, on peut aussi décider de découvrir différentes recettes. Donc l'important, c'est de diversifier. Moi, sur, par exemple, le potimarron en ce moment, je vais avoir une dizaine de recettes autour du potimarron.
Ça, c'est bon.
Donc ça permet quand même de suivre la saison et de s'autoriser des produits locaux, des produits de saison, et puis de se faire plaisir avec des produits qui sont néanmoins de saison en Sicile, tous les agrumes qui vont arriver. Mais c'est vrai, je préfère que les avocats viennent de Sicile plutôt que du Pérou. Et là, je sais que je me sens bien, en tout cas dans mon acte d'achat et dans ma façon de consommer. Pendant longtemps, j'ai pas mangé d'avocat, donc je suis ravie de pouvoir en manger à nouveau avec sens.
Voilà. Sur le fait de faire de la cuisine chez soi, il y a des gens qui disent non mais ça coûte plus cher, je préfère aller acheter mon gâteau au supermarché, etc. Qu'est-ce que vous qui sont, je crois, des idées fausses. Hein. Je pense qu'un cake coûte moins cher à faire chez soi que d'aller l'acheter tout fait. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'arguments qui parfois ne sont pas mal intentionnés d'ailleurs.
Ils sont pas mal intentionnés. Je crois que les gens ont peur aussi de s'y mettre. Je crois que les gens sont beaucoup sur le temps. Il y a la charge mentale. On travaille toute la journée. On sait pas bien à quel moment on va pouvoir caler un bon déjeuner ou on pourra rassembler tout le monde ou un dîner. Donc il y a cette peur. Moi je crois qu'il y a vraiment ça et puis un manque d'informations. Faire un cake, c'est vraiment pas difficile. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire qui vont prendre 10 minutes, un quart d'heure. La recette que vous regardez là, ça prend 10 minutes, mais même
poire rôti au cumin, crème coco cardamome, crunchy noisette. Ça a l'air
plus.
Très bon. Hein.
Et puis après, il y a toutes les préparations qu'on fait en amont. Moi je travaille beaucoup comme ça. Donc effectivement, le week-end, on prépare en famille. Tout le monde participe, en tout cas si on veut manger. Et ensuite, on organise un petit peu notre frigo, voilà, en fonction des différents besoins. Les goûters sont préparés aussi, donc on a 2-3 goûters. Et mon enfant va gérer ses goûters dans le frigo. On est vraiment sur une préparation de 2 heures en amont, qui a priori, on parle du batch cooking en ce moment.
Hein, du quoi ?
Du batch cooking,
des
préparations en amont justement, pour pouvoir bien se restaurer toute la semaine et avoir moins
préparé,
de travail.
C'est ça,
oui, et en fait, ça n'est jamais que de la mise en place hein, dans un restaurant et du bon sens finalement.
Ah, j'en ai mangé cette semaine, tiens, du gratin de crozet, poireaux et oignons rouges, ça c'est très très bon les crozets gratinés.
Ah, c'est très
ça,
bon,
c'est
surtout
super.
Quand vous rajoutez des petites graines de fenouil ou des petites béros, ça apporte.
Bon, par contre, il n'y a pas de viande dans votre livre. Hein.
Non, parce que moi ça ne m'intéresse pas de cuisiner de la viande ou du poisson, je n'aime pas. Je suis sur le végétal. Et puis ensuite, je trouve que ça a du sens de montrer aux gens qu'on peut très très bien manger sur une cuisine végétarienne, qui soit gourmande, qui soit colorée. Pardon.
Ça, c'est la vertu de votre livre pour le coup. Ça, effectivement, c'est d'avoir un éventail de recettes qui soit pour ceux qui ne mangent que végétal, vraiment autour des légumes et des fruits. Hein.
Absolument.
Et des céréales.
Et des céréales et des légumineuses
et des
oléagineux qui sont quand même, somme toute, très intéressants aussi pour nos besoins physiologiques et pour la santé. Et je trouve que ça a du sens.
Une étude scientifique est sortie sur le sujet la semaine dernière d'ailleurs, sur les bienfaits des oléagineux. Alors pourquoi vous dites manifeste pour une petite cuisine engagée
Parce que j'avais envie de rester modeste. Et je pense que quand on reste modeste, je crois qu'on fait plus plus de choses et qu'on ose peut-être plus.
Mais c'est une vraie cuisine engagée, c'est pas une petite cuisine engagée. Moi, ça m'a gêné ce petit
c'est
mot-là.
Ah ben, je crois que c'est.
Vous devriez l'assumer, vous qui prenez vraiment le sujet à bras le corps.
C'est vrai, vous avez raison.
Mais qui je le connaissez que... bien en plus qui venait répandre la bonne parole auprès des écoles, parce que il y a ces ateliers aussi dont vous vous occupez aujourd'hui.
Il y a ces ateliers. Alors effectivement, avec les groupes scolaires, mais également avec les familles, donc des ateliers parents-enfants. Qui sont aussi très très intéressants parce qu'on sent que les gens ont beaucoup à dire, les parents aussi qui savent pas du tout, qui ont très envie de bien consommer aussi, d'acheter des produits de qualité à un coût raisonnable, mais force est de constater que parfois c'est compliqué. Donc dans ces ateliers qui sont autour de la cuisine bien sûr, mais aussi autour de l'engagement citoyen, on apprend, on discute, on échange sur la façon de consommer, sur le prix aussi, on n'a pas tous le même budget, et puis également voilà, sur l'éveil, sur
parce que c'est ce que vous dites aussi, la cuisine a évidemment une dimension sociale, y compris chez soi.
Absolument. Je crois qu'il se dit beaucoup, beaucoup de choses autour de la préparation d'un repas ou autour d'un dîner ensemble, et particulièrement autour de la préparation d'un repas, parce qu'il y a une lenteur qui s'installe. Donc c'est vrai que ces moments de silence, ça permet vraiment de se connecter à l'autre. On oublie un petit peu. Et je crois qu'on a tout complexifié, en fait. Finalement, on a besoin de sens, c'est fondamental, et de nature. Et à travers la cuisine, quelle qu'elle soit, je trouve qu'on retrouve aussi beaucoup ces deux points.
Et ces ateliers, alors, ils existent où exactement ?
Alors, en ce moment, moi, j'ai arrêté le restaurant, donc je ne l'ai fait plus de mon côté, mais je travaille beaucoup avec un lieu, je peux dire des noms, qui s'appelle la Maïf Social Club, qui est un lieu qui se trouve rue de Turenne, dans le 3e.
À Paris, oui.
À Paris, ouais. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble, et c'est vrai qu'ils ont vraiment le mérite de travailler sur la démocratisation de la culture, et également de l'engagement citoyen autour de l'écologie, etc. Donc, j'ai beaucoup d'ateliers là-bas. La Fondation Good Planet, ça arrive. Enfin, j'ai plein de lieux, donc ça, après...
Bon, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, en tout cas, sur l'état d'esprit que vous défendez et puis les recettes de cuisine, donc il y a cet ouvrage qui s'appelle Cantine Vagabonde et qui est publié avec des recettes super et des photos magnifiques chez Tana Éditions.
Merci Mathieu de m'offrir ce livre, ça me fait vraiment plaisir avant Noël. Merci.
Bon, allez, je vais vous l'offrir. Merci beaucoup, Lila. À très bientôt. Merci à vous d'être venue.